Chapitre 5. Pour les naïfs, Tanimura était un endroit plein de merveilles, d'occasions de se divertir et de dangers mortels. Et Nichi s'y sentait comme chez elle. Concentrée sur sa mission, elle se dirigea vers les quais où elle espérait trouver un navire en partance vers le sud et un capitaine familier des ports de l'Ancien Monde. D'après la description de Rouge, Colader devait être dans un coin reculé et ne pas figurer sur les cartes du tout venant, ce qui ne les empêcherait pas d'y arriver. Quand elle servait l'empereur Jagang, en ces temps où on l'appelait la maîtresse de la mort, Nichi avait forcé plusieurs villes isolées à accepter le joug de l'ordre impérial. Obsédé par la conquête du Nouveau Monde, Jagang s'intéressait très peu aux limites méridionales de son empire, des régions trop misérables et pas assez peuplées pour qu'il leur consacre de son précieux temps. Malgré leur éloignement, ces populations méritaient de savoir ce que le seigneur Ral avait fait. Leur annoncer que l'ère des tyrans et des massacres était révolue serait un défi et un honneur. Pour Richard, elle relèverait le gant. L'avenir et le destin dépendent à la fois du voyage et de la destination. À l'approche du port, les rues devinrent sinueuses et pentues. Ici, les bâtiments de deux ou trois niveaux, serrés les uns contre les autres, étaient disposés au hasard. Certains, très inclinés, semblaient vouloir rester en équilibre sur le flanc d'une colline. Dans les caniveaux, les eaux de pluie charriaient plus ou moins bien le contenu des centaines de pots de chambre. De solides matrones, les hanches bien larges, tiraient à un puits des seaux d'eau que des gamins maussades devaient ensuite transporter jusque chez eux. Pistant des volailles déplumées, des chiens miteux aboyaient comme s'ils participaient à une chasse à cour. Nichi traversa le quartier des fabricants de teinture, où l'air était chargé d'odeurs âcres qui vous restaient longtemps dans les narines. Devant les boutiques de marchands de tissus, des rouleaux de toutes les couleurs, indigo, jaune safran, noir foncé, séchaient au soleil sur des étendoirs. Dans le quartier des fabricants de fils, des gamins remontaient les rues pour constituer des bobines géantes. Le coin des tanneries puait plus que tout ce qu'on pouvait imaginer. Opportunistes, des gosses proposaient aux passants des feuilles de menthe pour qu'ils se les plaquent sous le nez. Les joues crasseuses, une fillette aux cheveux noirs coiffée en queue de cheval tendit à Nichi un petit bouquet odorant.
« Un sou de cuivre seulement. Chaque inspiration devient un vrai plaisir. »«
Désolé, mais l'odeur de la mort ne me dérange pas. » La gamine en haillons ne cacha pas sa déception. Depuis quand n'avait-elle pas eu un repas digne de ce nom? Et pris un bain? Pour l'encourager, Nichi lui donna quand même un sou et elle s'en fut en riant. Sur les marchés bondés de monde, les poissonniers proposaient des coquillages et des poulpes vivants conservés dans un seau d'eau salée. Les bouchers, eux, faisaient dans les délicatesses exotiques. Viande d'autruche, de bœuf musqué, de zèbre et même, prétendument, steak de garne à longue queue. Plus que faisandés, ces bas morceaux attiraient moins de clients que de mouches. Un peu plus loin, comme des trophées de chasse, des poissons fumés entiers pendaient à des râteliers. Près de marchands de brochettes épicées, des boulangers vantaient les mérites de leur boule de pain complet. Autour d'un gros chaudron qu'elles remuaient avec ardeur, deux femmes vendaient des portions de soupe de kraken, une préparation à base d'algues, de gros oignons et de ventouses tendres découpées sur d'énormes tentacules. Marchant à grands pas, Nichi aperçut à peine les jongleurs qui se déchaînaient au coin des rues, les attroupements autour des jeux de bonneto, et les musiciens qui tiraient des sons étranges d'instruments encore plus bizarres. Dans le quartier des épices, des types en tunique longue discutaient ferme du prix du cumin, du curcuma et des gousses de cardamome. Accroupie sur un trottoir, une vieille femme édentée triait des racines de mandragore et de gingembre. Dès qu'un souffle de vent se levait, les marchands d'épices se hâtaient de couvrir leurs grands paniers remplis de poudres odorantes. Penchés sur une coupe pleine de piments en poudre, un type en reçut dans le visage et faillit s'étrangler à force de tousser. Peuplée et vibrante de vie, Tanimura était une ville où chacun se souciait de son existence quotidienne. En revanche, l'avenir et la gloire de l'Empire d'Aran semblaient passer très largement au-dessus de la tête de ses habitants. Loin d'être des combattants, ces gens avaient souffert des années sous la dictature de l'ordre impérial, puis survécu à une longue et sanglante guerre dont ils ne comprenaient pas toujours les enjeux. Aujourd'hui, Mesurait-il à quel point leur vie avait changé? Si le règne du Seigneur Râle continuait, ils n'auraient pas besoin de s'en soucier puisque leurs dirigeants les protégeaient. Dans les quartiers d'habitation plus anciens, juste avant le port, les rues devenaient plus étroites et partaient dans tous les sens. Ici, les bâtiments étaient grands mais miteux et les rues ressemblaient davantage à des allées. Coincés dans quelques cul-de-sac reconvertis en décharges publiques, Nietzsche dut plus d'une fois revenir sur ses pas. Dans une voie un peu plus large, bordée de maisons à trois niveaux, aux façades décrépites, au milieu des effluves d'eau croupie et de déjections de rats, la magicienne pressa nerveusement le pas. Alors qu'elle espérait déboucher sur une grande artère, elle se retrouva dans un dédale de ruelles. Un cri retentit devant elle. Puis, il y eut des rires, l'écho de coups portés sur de la chair et d'autres cris de douleur. Alors qu'elle courait vers l'origine de ces sons, un rire moqueur retentit. On eût dit celui d'un gamin.
« C'est tout l'argent que j'ai !»
gémit une voix de jeune homme. Déboulant dans une ruelle, Nietzsche découvrit trois costauds et un gamin maigrichon qui cernait un type d'une vingtaine d'années. En un instant, elle évalua la scène, identifiant les prédateurs et la victime. Le jeune homme n'avait pas l'air d'un natif de Tanimura. Les cheveux roux, le teint pâle et les yeux noisettes, il tremblait de terreur. Il contre-attaqua avec l'idée de fuir, mais les trois costauds le retinrent à coups de poing. Pour eux, c'était un jeu, et il ne semblait pas pressé que ça finisse. Une petite bourse dans une main, le gamin, 10 ans à peine, sautait d'un pied sur l'autre. Un des colosses, les bras courts mais incroyablement musclés, décocha un coup de pied dans la cuisse de sa proie. Déséquilibré, le rouquin s'écroula, glissant le long d'un mur souillé d'immondices. Dans sa chute, il garda les bras levés pour parer les coups de poing.
« On arrête ça !»
lança Nietzsche. Sans crier, mais d'un ton assez ferme pour attirer l'attention des sales types.
Les trois colosses en sillèrent de surprise. Les yeux ronds, le gamin détala comme un cafard dérangé par la lumière.
L'ignorant, Nietzsche fit face à ses trois complices la véritable menace. Enfin conscient qu'il se trouvait devant une jolie blonde en robe noire et rien de plus, les voleurs sourirent aux anges puis se déployèrent, histoire d'attaquer depuis toutes les directions.
« Inutile de t'enfuir, petit salopard !»
cria le type au bras court à l'intention du gamin.
« Ce n'est qu'une femme !»«
Laisse-le gourir, Jer !» dit un autre voyou. « On s'occupera de lui après !»
Les yeux rouges, ce ruffian devait lever le coude plus souvent qu'à son tour.
« De toute façon, on ne veut pas qu'il voie ce qu'on va faire avec elle !» dit le troisième type. « Pour ce genre de travaux pratiques, il est un peu trop jeune !»
Le rouquin tenta de se relever. La chemise en lambeaux, il saignait du nez.
« Ils m'ont détroussé !»
L'ivrogne aux yeux rouges le gifla, l'envoyant bouler contre le mur. Glacé à l'intérieur, Nietzsche ne daigna même pas avancer.
« Vous ne m'avez pas entendu? Je vous ai dit d'arrêter. »«
Nous, on commence seulement !»
railla Jer. Avec un bel ensemble, les trois voleurs dégainèrent leurs couteaux. À l'évidence, Ross et le rouquin ne les avaient pas assez divertis et ils comptaient se rattraper avec Nietzsche. Très classiques intentions chez ce genre de salopards. Hilar, ils avancèrent vers leur proie. Le troisième voyou, affublé d'une queue de cheval, contourna Nietzsche pour l'empêcher de s'enfuir. Comme elle n'en avait pas l'intention, la manœuvre ne la dérangea pas le moins du monde.
« Jolie robe noire !»
dit Jer en brandissant son couteau.
« Mais je préférerais te voir sans. Pour nos projets, ce serait plus agréable. »
Une main sur sa cuisse meurtrie, le rouquin se releva péniblement.
« Ne lui faites pas de mal !»«
Combien de dents veux-tu perdre avant ce soir ?»
grogna l'ivrogne aux yeux rouges.
« Il y a des semaines que je n'ai plus tué personne, »
dit Nietzsche imperturbable.
Et voilà qu'on m'offre trois cibles en même temps. »
D'abord étonné par son calme, Jer éclata de rire.
« Et comment comptes-tu faire, sans armes en plus de tout ?»
Les mains le long du corps, la magicienne plia légèrement les doigts.
« L'arme, c'est moi !»
Pour tuer ces types, songea-t-elle en invoquant son pouvoir, elle avait des dizaines de méthodes à sa disposition. Enfin debout,
Le rouquin fonça sur les voleurs en criant.
« Je ne les laisserai pas te maltraiter !»
Le type à la queue de cheval lui fit un croc en jambe et il s'étala piteusement. L'ivrogne avança en faisant des arabesques avec son couteau pour intimider sa future victime.
« Blesse-la, Enti !» dit Jer. « Mais ne la moche pas trop, pour le moment. En la besognant, je veux pas me remplir de sang. »
Avec du feu de sorcier, Nietzsche aurait réduit les trois types en cendres en un éclair. Mais le rouquin aurait pu brûler avec eux, sans compter le risque de ficher le feu à tout un quartier. Mais pourquoi recourir à des moyens démesurés? Percuté par un mur d'air, Enti resta un moment sonné. Le faisant léviter, Nietzsche le propulsa ensuite contre le mur. Rien de très agréable, mais au nom de quoi l'aurait-elle ménagé? Quand l'ivrogne s'écrasa contre la pierre, son crâne éclata comme s'il s'était agi d'un des melons du fermier obligeant. Sur le mur, une tache de sang s'ajouta aux autres souillures. Fou de rage, Jer attaqua à son tour. D'un simple sort, Nietzsche lui écrasa le larynx puis lui broya les os du cou. Crachant du sang, les yeux menaçant de jaillir de leurs orbites, il bascula en avant. L'homme à la queue de cheval flanqua un coup de pied au rouquin qui tentait de le faire tomber, puis frappa avec son couteau. De justesse, le jeune idiot esquiva un coup mortel. Fatigué de ce combat, Nietzsche força le cœur du troisième voyou à s'arrêter. Raide mort, il tomba comme une masse.
« On est sauvé !»
s'écria le rouquin stupéfait. Blanc comme un linge, ce qui fit ressortir ses taches de rousseur, il balaya le carnage du regard.
« Tu les as tués ! Douce mère la mère, tu... Ils sont morts ! Tu n'avais pas besoin de faire ça ?»«
Peut-être, » admit Nietzsche, « mais c'était la solution la plus commode. Ces hommes auraient attaqué d'autres personnes, puis on aurait fini par les arrêter. J'ai fait gagner du temps aux juges et aux bourreaux. »
Lèvres éclatées, visage boursouflé, le rouquin en resta un instant muet.
« C'est que... ils m'ont pris mon argent, c'est vrai, mais je ne crois pas qu'ils m'auraient tué. »
Nietzsche étudia le jeune homme. Sa chemise sombre et son pantalon de toile faisaient penser à la tenue d'un marin. À première vue, il ne portait pas d'armes, pas même un simple couteau à la ceinture.
« Tu ne crois pas qu'il t'aurait tué ? Moi, je n'aurais pas parié là-dessus. »
Le rouquin déglutit péniblement. Comme il semblait innocent, voire stupide. Si ses orions et la perte de sa bourse ne lui avaient pas servi de leçon, il ne méritait pas qu'on perde du temps avec lui.
Continue à traîner ici sans armes et sans regarder autour de toi, et tu sauras très bientôt si les voyous du coin en ont après ta peau.
La magicienne se détourna du rouquin.
La prochaine fois, ne compte pas sur moi pour t'aider.
Le jeune homme courut pour la rattraper.
Merci, oui, merci. Désolé de ne pas l'avoir dit plus tôt. « Pourtant, on m'a appris la politesse et la reconnaissance. C'était très gentil, vraiment. Je m'appelle Bannon. »
Il hésita un moment.
« Bannon Farmer. Je viens de l'île de Shiria. C'est mon premier séjour à Tanimura. »
Nietzsche ne s'arrêta pas.
« Je m'en doutais, ça risque fort d'être le dernier si tu continues à faire l'idiot. »
Bannon suivit la magicienne en babillant.
J'avais une ferme où je cultivais des choux, mais je voulais voir le monde et je me suis engagé sur un bateau. C'est ma première escale et je vais m'acheter une épée. »
Bannon se tapota la hanche, hésitant comme s'il pensait avoir imaginé l'agression.
« Ils m'ont pris mon argent. Ce gamin !»
Nietzsche n'afficha ni surprise ni compassion.
« Il a filé et tu ne le retrouveras plus. Il a bien fait, je dois dire. J'aurais détesté tuer un si petit gosse. »
Bannon se décomposa. «
Je cherchais un forgeron. Très amicaux, ces hommes m'ont proposé de les suivre jusqu'ici. J'aurais dû être moins confiant. Heureusement, tu m'as sauvé. Es-tu une magicienne? Je n'avais jamais rien vu de pareil. Merci de ton intervention. »
Nietzsche s'arrêta et se retourna.
« Honte sur toi d'avoir eu besoin de secours. Tu devrais être assez malin pour ne pas devenir une victime. » Pour les voleurs et les voyous, je n'ai aucune pitié. Mais sans les crétins comme toi, ils seraient tous au chômage. »
Bannon s'empourpra.
« Désolé, la prochaine fois je me méfierai. »
Il essuya le sang qui coulait de son nez et des coins de sa bouche,
puis se nettoya les mains sur le devant de son pantalon.
« Mais si j'avais eu une épée, j'aurais pu me défendre !»
Appuyé contre un mur, Bannon lutta pour retirer sa botte gauche.
« Il me reste peut-être assez de pièces ?»
Il renversa sa botte, 2 pièces d'argent et 5 de cuivre tombant dans le creux de sa main.
« Je tiens cette ruse de mon père. Ne jamais avoir tout son argent au même endroit en cas de vol. »
Pensif, Bannon considéra sa fortune.
« Ce n'est pas assez pour acheter une épée digne de ce nom. Je rêvais d'une belle lame avec une poignée et un pommeau en or et des gravures raffinées. Qui sait, cet argent suffira peut-être.
Une épée n'a pas besoin d'être belle pour faire des dégâts.
J'imagine, oui. »
Bannon remit les pièces en place et enfila sa botte, puis il tourna la tête vers les cadavres.
« Toi, tu n'as pas eu besoin d'une épée ?»«
Exact. En revanche, je cherche un navire en partance pour le sud. J'étais en route pour le port et je file. »
« Un navire ?»
Sa botte mal remise, Bannon clopina derrière la magicienne.
« Je me suis engagé sur le randonneur des vagues, une caraque à 3 mâts qui vient de Sérimundi. Dès que la cargaison sera à bord, le capitaine Ellie compte lever l'ancre sans tarder. Ce soir, probablement, avec la marée haute. Des passagers pourraient l'intéresser, surtout avec ma recommandation.
« Je me débrouillerai seul, »
marmonna Nietzsche. Mais elle eut un remords. Après tout, le rouquin essayait simplement de l'aider.
« Merci de ton assistance. C'est le moins que je puisse faire. Le randonneur des vagues est un bon bateau. Tu en seras contente.
J'irai voir ton capitaine. »
Bannon s'épousta frénétiquement.
« Moi, je cours m'acheter une épée. Comme ça, les prochains bandits verront de quel bois je me chauffe. »
L'air piteux, un manque de délicatesse flagrant vis-à-vis de Nietzsche, il désigna les cadavres.
« On en fait quoi ?»
La magicienne ne daigna pas tourner la tête.
« Les rats ne tarderont pas à les trouver. »